Nous sommes le vendredi 6 décembre. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le jour d'après, après une mobilisation massive contre la réforme des retraites, entre 800 000 et 1,5 million de personnes dans la rue et un pays au ralenti. Qu'en est-il ce matin? Quelles sont les perspectives pour les jours à venir et la marge de manœuvre du gouvernement? On voit tout ça après les autres titres, Agnès.
Des familles de policiers visées par des lettres de menaces. Une enquête est ouverte. La crise libanaise et ses répercussions sur l'économie syrienne déjà bien mal en point. La mise en garde des autorités de santé aux jeunes femmes porteuses d'un implant contraceptif. Et puis ils ont su surfer sur la tendance de la cuisine italienne. Le groupe Big Mama ouvre un 8e restaurant à Paris.
Les invités de France Inter ce matin autour de ce mouvement social à 7h50 sur les aspects de maintien de l'ordre. Ali Badou recevra Éric Morvan, le directeur général de la police nationale. À 8h20, la parole au syndicat avec le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, dans le grand entretien. Le standard est ouvert, appelez-nous dès maintenant.
France Inter. Et ce matin donc, quelle est la situation dans les gares, sur les routes, dans le métro, alors que les prévisions de circulation sont quasiment identiques à celles d'hier? 10% des trains en circulation, 10 lignes de métro fermées à Paris, avec une reprise du trafic aux heures de pointe sur la ligne 8, un bus sur 3 en moyenne à la RATP, très légère amélioration du côté des trains ciliens avec 15% du trafic assuré, et des TER avec 3 trains sur 3. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour.
Vous êtes à la gare du Nord à Paris, gare la plus fréquentée d'Europe. Alors quelle est tout simplement la situation ce matin?
La gare du Nord ne verra pas aujourd'hui ses 700 000 voyageurs par jour. Le grand hall est vide, même si quelques Eurostar, Thalys ou TGV partent vers le Nord. Les RER B et D s'arrêtent ici. Il faut ensuite marcher pour récupérer la ligne, comme Cyril, GPS à la main.
Je vais à Châtelet récupérer le RER B. Je me suis levé à 4 heures, là je vais au hall, je vais jusqu'à Fontenay-aux-Roses. Et puis après je prends un bus, s'il est là. Je vais mettre comme hier 3 heures au lieu d'une heure.
Des voyageurs habitués à ces suspensions de RER, sauf que cette fois-ci, ils ne peuvent pas compter sur le métro pour continuer leur trajet. Pas de ligne 5 et une ligne 4 ouverte seulement aux heures de pointe, constate Stéphanie qui attend au pied de la grille fermée.
Ben hier, ils se battaient, ils se bousculaient tout et tout. Et aujourd'hui, je suis sortie plus tôt en pensant qu'ils seraient déjà actifs. Donc apparemment, c'est à 6h30.
Jacqueline, elle se rend à des obsèques en Bretagne. Elle a rendez-vous à l'opposé, dans le sud de Paris.
Il n'y a pas de train, tout a été annulé pour la Bretagne. Ou alors ils sont complets, donc ben, je m'en vais en covoiturage. Et là, je dois rejoindre la mode Piquet-Grenelle. Et il n'y a pas de métro, donc je vais prendre un taxi, j'ai pas le choix. Mais je veux dire, je suis solidaire avec la grève. Hein.
Des voyageurs qui se disent plutôt compréhensifs sur la grève, mais qui s'interrogent déjà sur ce qu'ils vont faire lundi prochain. Gare du Nord, Mathilde Dehimy, France Inter.
Alors concernant les TER, ce sont 3 trains sur 10 qui circulent aujourd'hui. Et puis sur les routes, on compte actuellement 200 km de bouchons. C'est deux fois plus que d'habitude. À noter qu'après une passe d'armes hier entre le secrétaire d'État aux transports et la maire de Paris, des bus de la compagnie Flexibus assureront 8 liaisons dans la journée entre Massy et Aulnay-sous-Bois dans les deux sens gratuitement, avec arrêt en gare de Paris-Bercy. Dans les airs, 30% des vols intérieurs annulés pour Air France, des avions au sol également pour les compagnies low cost. Voilà pour les prévisions de trafic aujourd'hui. L'image qui restera d'hier est celle d'une mobilisation exceptionnelle contre la réforme des retraites, des cortèges partout en France qui ont rassemblé 800 000 personnes selon les autorités, 1,5 million selon la CGT. Une très forte mobilisation dans le public comme dans le privé, c'est d'ailleurs réjoui Philippe Martinez, le leader de la CGT, était dans le cortège parisien dont la progression a été ralentie par des actes de violence de quelques centaines de Black Blocs, mais qui n'ont pas découragé les manifestants. Reportage de Manuel Ruffez.
En arrivant enfin en place de la Nation, ils en ont bien conscience, ces manifestants, il y avait du monde dans les rues.
Aujourd'hui, les pouvoirs en place annoncent 500 000 manifestants. Ça veut dire qu'on est bien plus, les camarades.
Et dans ce cortège, ils ont grossi les rangs de manière significative. Les enseignants, comme Franck, professeur en lycée professionnel.
En commençant à l'avoir marre, c'est clair qu'on va perdre entre 300 et 600 euros. On va se faire avoir comme d'habitude.
On les dit aussi particulièrement concernés par cette réforme des retraites, le personnel hospitalier. Martine est venue là, avec des collègues, en blouse blanche.
Déjà qu'on a des salaires très bas, on aura bien fini notre vie tranquille. Faut arrêter de nous mettre la pression, faut respecter un peu le travail des gens.
Des gens nombreux, très nombreux, hier, reconnaît Jean-Gabriel, salarié chez Orange. Mais l'effet aurait pu être encore plus important si le cortège n'avait pas été coupé en deux par des affrontements.
Être considéré comme du bétail, ça va bien. On a contourné, on a attendu sur la place de la République, et d'un seul coup, la place a été gazée. On avait le choix de pleurer, de manifester. On a fait le choix de manifester.
Avec un seul mot d'ordre en fin de manif pour la suite, grève générale.
Reportage de Manuel Ruffez, et à noter que 90 personnes ont été interpellées hier à Paris, 70 restées hier soir en garde à vue. Et ensuite, si les perturbations devraient se poursuivre dans les transports ce week-end, la situation lundi sera déterminante. La grève a d'ores et déjà été reconduite à la RATP jusqu'à lundi soir. Les enseignants doivent décider aujourd'hui de la suite à donner au mouvement, avec le SNES qui appelle déjà à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Bonjour Hélène Filly.
Bonjour.
Alors après cette démonstration de force réussie hier, quelles sont les marges de manœuvre du gouvernement?
Alors on a besoin de la réforme, mais on a le temps de la faire. C'est dans cette nuance que tout se joue pour le gouvernement. Prendre le temps de négocier des transitions, la revalorisation des enseignants, l'élargissement de la notion de pénibilité, l'âge de départ à la SNCF ou à la RATP. On s'éloigne en tout cas d'une bascule dans le nouveau système pour tous en 2025. Et puis on ne se presse pas non plus pour faire des économies. Gérald Darmanin lui-même estimait hier soir sur France 2 qu'il ne faut pas être bêtement budgétaire. Pas tout de suite en tout cas, ajoute le ministre des Comptes Publics. Le travail est plus longtemps, peut attendre un peu. En réalité, sur ce sujet, objet de vifs désaccords au sein du gouvernement, l'exécutif pourrait renvoyer la balle à la future gouvernance du système des retraites à laquelle les syndicats seraient associés. Le Premier ministre rendra ses arbitrages en milieu de semaine prochaine après les dernières concertations entre le haut-commissaire et les partenaires sociaux.
Merci Hélène Filly. Rappelons qu'à 8h20, le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier, sera l'invité du grand entretien. Et c'est dans ce contexte social tendu que le groupe d'experts sur le SMIC, consulté avant chaque valorisation du salaire minimum, recommande au gouvernement de ne pas donner de coup de pouce supplémentaire et de s'en tenir donc à la revalorisation automatique. Et c'est aussi dans ce contexte d'affrontements récurrents lors de manifestations que des lettres de menaces ont été envoyées à des familles de CRS engagées depuis un an sur les manifestations de Gilets jaunes. À Grenoble, Limoges ou Périgueux, peut-être des dizaines d'envois au total, et c'est la première fois, Emmanuel Leclerc, que les familles sont menacées.
C'est un courrier type envoyé à des régisseurs de compagnies de CRS à travers apparemment tout le pays car leur adresse est publique. Une lettre de menace signée d'un groupe bien connu des milieux d'extrême gauche, ACAB, comme All Cops Are Bastards, tous les flics sont des salopards, mais cette fois, ce sont les épouses, les enfants des policiers laissés seuls chaque week-end qui sont visés désormais. Ce sera œil pour chaque blessé lors de manifestations, avertissent le ou les auteurs de la missive. Une menace prise très au sérieux par la direction centrale des CRS. Il y a déjà eu 3 plaintes hier, une enquête est ouverte, avec en interne un appel à ne pas ouvrir les lettres pour tenter de détecter des traces ADN. Les syndicats de policiers réclament des mesures de protection spéciales. Ils dénoncent, comme SGP Force Ouvrière, un palier supplémentaire d'une République, je cite, en passe de faillir.
Et à 8h10, Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, sera l'invité d'Ali Badou. Au chapitre judiciaire, verdict attendu ce soir au procès du meurtrier présumé d'Élodie Kulik devant la cour d'assises de la Somme, où en l'absence de preuves formelles, un acquittement comme une lourde condamnation sont possibles. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Et puis François Bayrou, convoqué aujourd'hui en vue d'une mise en examen. C'est l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens du Modem.
Il est 7h09, Agnès. La crise libanaise et ses répercussions en Syrie.
La situation économique en Syrie était déjà marquée par plusieurs années de guerre, avec le cours de la livre syrienne qui a atteint en début de semaine son plus bas niveau de l'histoire. Et à l'origine de cette nouvelle dégringolade, Aurélien Colli se trouve chez le voisin libanais, profondément en crise également.
Depuis le début de la guerre civile et les sanctions occidentales, le Liban est le poumon de l'économie syrienne. Les milieux d'affaires et les importateurs syriens dépendent de son système bancaire pour accéder au marché international, se procurer des devises, en premier lieu des dollars, et pour poursuivre leurs activités. Idem pour les millions de réfugiés ou d'expatriés syriens qui envoient régulièrement de l'argent vers leur pays natal. Tout passe par le Liban et par ses banques où 20% des dépôts appartiennent aussi à des Syriens. Mais le poumon est en train de s'asphyxier car le Liban Liban s'enfonce dans la crise. Chaque jour, quasiment, ces banques limitent un peu plus l'accès au dollar. Limitent sur les transferts, les virements, les retraits, uniquement au guichet, car les distributeurs sont à sec et seulement quelques centaines de dollars par semaine. Résultat, l'oxygène se raréfie aussi de l'autre côté de la frontière. La livre syrienne est tombée à un niveau historiquement bas mardi soir. 1000 livres pour un dollar au marché noir. L'inflation atteint déjà 20 à 30% sur les produits de base largement importés et de nouvelles pénuries s'annoncent alors que rien n'indique que la situation s'améliore au Liban. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Aux États-Unis, Uber admet 6000 agressions sexuelles en 2 ans. La plateforme, après avoir longtemps refusé de donner des chiffres, a fini par céder, accusée d'inefficacité et de mauvaise volonté pour lutter contre ce fléau. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Retour en France avec l'alerte lancée ce matin par l'Agence nationale de santé et du médicament. Alerte concernant le seul implant contraceptif autorisé dans l'Hexagone. Hélène Chevalier.
Le Nexplanon, c'est un petit bâtonnet en plastique de la taille d'une allumette. Implanté sous la peau du bras, il libère en continu une hormone qui bloque l'ovulation. Selon les signalements recueillis par l'agence, depuis sa commercialisation en 2001, au moins 30 femmes ont été victimes d'une migration de cet implant. Dans les cas les plus graves, certaines ont dû subir une lourde opération du thorax. Isabelle Yoldjian est la chef du pôle gynécologie à la NSM.
Le plus souvent, il va bouger un tout petit peu dans le bras, mais parfois, s'il est inséré directement dans un vaisseau sanguin, il peut migrer jusqu'à l'artère pulmonaire, avec des conséquences potentiellement graves, puisque dans un petit nombre de cas, on est obligé d'aller chercher l'implant dans le vaisseau pour le retirer.
Si les hypothèses d'une morphologie particulière du bras ou de la répétition de gestes sont évoquées, c'est dans la majorité des cas une pose incorrecte par le médecin ou la sage-femme qui expliquerait cette migration. C'est pourquoi la NSM va dans les prochaines semaines envoyer un courrier aux professionnels de santé pour rappeler la procédure d'insertion du Nexplanon. Elle invite par ailleurs les femmes porteuses de cet implant contraceptif à vérifier régulièrement sa présence et à consulter rapidement si elles ne le repèrent plus.
Enfin, c'est l'histoire d'une réussite française à la sauce italienne. 11 restaurants ouverts en 4 ans à Paris, mais aussi à Lille et à Londres par 2 jeunes entrepreneurs français qui ont su surfer sur la mode de la cuisine italienne. L'enseigne ouvre aujourd'hui une nouvelle adresse dans le 10e arrondissement de Paris. Les recettes de ce succès avec Yann Gallic.
Dans les restaurants Big Mama, il faut savoir être patient. Midi et soir, les gens font la queue sur le trottoir pendant de longues minutes avant de pouvoir s'attabler.
C'est sympa, ça fait très convivial. En plus, la carte change régulièrement, donc c'est vrai que ça donne envie de revenir pour voir un petit peu ce qui est nouveau.
Et il y a du monde, hein ?
Oui, il y a du monde.
Big Mama a repris le concept de la trattoria avec des produits et des cuisiniers venus directement d'Italie, des restaurants à la décoration soignée et surtout une cuisine populaire à des prix attractifs. C'est ce qui séduit Antoine, un habitant.
À l'époque, la margarita était à 4 euros, maintenant elle a augmenté à 9 euros. C'est la bonne bouffe, pas très cher. Puis le lieu aussi qui est atypique, donc c'est toujours un plaisir. Le problème, c'est juste un peu la queue. Faut pas arriver aux heures de pointe, on va dire.
Chez Big Mama, la communication est désormais bien rodée, avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Lunettes rondes, des costumes ajustés, Victor Luguerre, ancien étudiant en école de commerce, est le cofondateur de cette entreprise en pleine expansion.
Si on fait une cuisine du quotidien et pour tout le monde, on a la responsabilité de faire plus végétarien, moins cher, accessible pour tous, avec des produits qui sont bons pour la santé. C'est pour ça qu'on doit acheter nos produits en direct des producteurs en Italie. Nous, on essaie de faire un resto où les gens ont envie d'aller, mais qui n'est pas juste réservé à une élite.
À Paris, à Londres et à Lille, Big Mama compte aujourd'hui 11 restaurants et près d'un millier de salariés. Mais les fondateurs du groupe préfèrent rester discrets sur leurs chiffres d'affaires.
7h13, merci Agnès Soubiran. Et